Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, nous sommes en février 2021, c'est l'épisode numéro 391. J'ai réussi à avoir toutes les informations d'un coup et cet épisode vous est présenté tout particulièrement par les patriotes qui soutiennent l'émission, spécifiquement Stéphane, Ranald Hubert-Bézet, Lionel Godelot, Claude Girel, Coco, Christopher Brooks, Jehan Adjovi et Muji, on se demande si c'est Muji Rushi Ryohin ou juste Muji, et également Rémi X. Il y a beaucoup de Rémi dans la vie, mais il y en a un seul qui est Rémi X, et c'est lui qu'on préfère, on lui envoie des bisous, c'est notre producteur, niveau producteur pour cet épisode. Donc merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. J'ai aujourd'hui une assemblée incroyable de co-animateurs, à commencer par Aizea Design, alias Marion. Comment ça va, Marion? T'es en forme?
Bonjour, bonjour. Bah oui, j'ai la forme et là, ça va être assez intéressant. On est beaucoup de personnalités intéressantes qu'on va entendre aujourd'hui.
Oui, j'espère. Et des sujets intéressants aussi. Il y en a une tripotée. Hein. C'est pas un gros sujet, mais plein. Et bah, on va y venir dans un instant. On a également Ibrahim qui est là dans l'assemblée. Comment ça va, Ibrahim? T'es en forme?
Super bien, je vais super bien. Merci, Patrick.
Tu peux... les gens qui t'entendent connaissent forcément... se souviendront évidemment de Molengeek. Et si on dit Molengeek, on dit forcément Ibrahim Ouassari. Tu peux nous dire en deux secondes qui tu es, d'où tu viens?
Je suis Ibrahim Ouassari, entrepreneur autodidacte qui a fondé Molengeek, qui est un écosystème technologique qui a pour mission de rendre accessible le digital à tous, en mettant en place des formations, des hackathons, et on a aussi un incubateur à start-up. Et actuellement, on est à Bruxelles, Anvers, Charleroi, mais aussi à Rotterdam, Amsterdam et à Padoue en Italie.
Voilà. Ah, mais je ne savais même pas que vous étiez dans tellement de villes. Moi, j'associais Molengeek à Bruxelles, mais d'accord, très bien.
Non, on se développe très bien. Ça a énormément de sens ce qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de villes beaucoup de citoyens des villes qui demandent qu'on puisse développer l'écosystème dans leur ville. On essaye, nous, par la même occasion, de créer un réseau européen pour rendre ce marché européen plus accessible à nos startups aussi.
Bah écoute, excellent. Et je suis très heureux de t'avoir avec nous pour discuter de tout ce qui se passe dans la tech. Et on a, alors, il y en a un qui se fait discret depuis tout à l'heure, qui est un spécial featuring, le présentateur, l'analyste, le reviewer le plus enthousiaste de la sphère technophile en France, Pépé Garcia, qui est là en featuring, juste pour le tout début de l'émission. Comment ça va, Pépé?
Mais ça va très très bien, Patrick. Merci tout le monde. Merci dans tous les cas de m'accueillir comme ça dans cette émission au-dessus de vos moyens. C'est génial.
La raison pour laquelle tu es là, on a plein de sujets un petit peu chiants, hein, il faut avouer, qu'on va vouloir traiter après que tu sois parti. Mais tu es là.
Alors, Patrick, il vend super bien son émission.
Ouais, c'est lourd.
Surtout, ne restez pas avec nous. Hein.
Je fais du podcast depuis 15 ans hein, quand même. Je connais mon métier. mais c'est vrai que là, on a un prototype de smartphone que tu as pu voir, Pépé, que tu as testé, un prototype de chez oui. Oppo, qui s'appelle le Oppo X 2021, qui est celui qui, pour la première fois, m'a donné de l'espoir pour les smartphones pliables. Pliables, coulissants, je ne sais pas exactement comment on peut parler de cet écran. Est-ce que tu peux essayer de le faire mieux que moi?
Extensible. Oui, alors ouais, merci. En effet, oui, c'est un truc. Moi, j'en avais entendu parler il y a déjà un petit moment, puisque j'avais eu la chance de partir en Chine parler avec les gens de TCL. Et TCL en Chine, c'est CSOT. Alors, CSOT, c'est une des plus grandes. C'est une usine. En même temps, c'est un centre de recherche et développement en Chine. Et CSOT, c'est un géant. c'est un géant et TCL en est la marque, entre guillemets. Mmh. Et CS Auti m'avait déjà montré il y a 2-3 ans des prototypes d'enroulables, d'extensibles. Et CS Auti, il faut savoir que des gens qui sont actionnaires de CS Auti, c'est notamment LG qui travaille avec eux, il y a Oppo qui travaille avec eux, donc c'est vraiment très très gros. Et j'avais vu ça et je me suis dit, ok, il y a le pliant qui a les qualités, les défauts qu'on connaît, c'est-à-dire qu'en effet, le pliant, moi, je trouve ça génial. Moi qui suis un fan de Star Trek, les trucs qui se plient, les clapets, Motorola, j'avais 5 ans, des cheveux et tout, c'est merveilleux. Et le truc, c'est que je me suis dit, bon, ça, c'est sympa, le pliant, mais si on pouvait essayer de trouver autre chose aussi, ça serait pas plus mal. Et il m'avait montré l'extensible. Donc, l'extensible, un peu la façon de l'écran OLED de LG qui monte et qui descend. Et l'extensible, on m'en avait parlé. Je me dis, tiens, ça serait cool si ça arrivait. Et c'est eux qui ont dégainé les premiers au pot. Donc, à mon avis, l'écran dedans, ils n'ont pas voulu me dire. Mais c'est l'écran de CS aussi, puisqu'ils travaillent là-dessus depuis un petit moment. Et ce qui est bien, c'est que je pense que ça rassure les gens, ce produit, parce que c'est un truc extensible. Et il n'y a pas le problème de marquage lié au clapet, à la fermeture, avec donc la molette, avec la fine couche de plexi qui est dessus. Et l'idée, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui est certes motorisé, mais qui est extrêmement impressionnant. Moi, c'est, techniquement, si tu veux, Patrick, et les gens, ça m'impressionne beaucoup plus que le clapet. C'est-à-dire qu'avoir il y a deux moteurs, c'est coulissant, c'est une chenille, en fin de compte, qui se déploie avec les moteurs, une architecture mécanique qui est derrière, qui soutient l'ensemble. Et on passe d'un smartphone classique à une phablette. Et en c'est fait, visuellement...
Ouais, oui. pour que les gens comprennent bien, je pense que les gens se souviennent effectivement de la télé que tu évoquais qui s'enroule dans son meuble pour monter oui. à différentes hauteurs. Là, c'est le même principe. L'écran s'enroule sur le côté du téléphone et vient se glisser.
Pas autour.
Enfin, pardon, Patrick, il glisse à l'arrière du téléphone.
Il glisse c'est ça. Autour. Il descend en dessous.
Il glisse en dessous et donc...
Il s'enroule pas, l'OLED s'enroule, mais ouais. pas celui-là.
Mais mécaniquement, le téléphone, ouais. en fait, s'agrandit et l'écran vient se déployer sur le devant. Et quand tu le rapetisses, il glisse en dessous et en fait, voilà. on comprend qu'il une chenille qui se rallonge derrière, c'est en fait, qui reglisse derrière. Ouais. C'est vraiment un concept, ce téléphone. C'est pas un truc qui est un produit qu'ils vont vendre, hein, d'après ce que j'ai compris dans ta vidéo.
Ah bon? Ah bon? Bah écoute, franchement.
Enfin, ils n'ont rien à annoncer maintenant, en tout cas.
Non, mais attends, tu sais très bien ce que c'est. Nous sommes des journalistes. Quand ils nous le montrent, ouais. c'est en général pour nous dire attention, les loulous, commencez à bien vous préparer au fait qu'il va vous débarquer sur la gueule, tôt ou tard. Ouais. Je pense que ce n'est pas. Ils n'ont pas tiré un coup en l'air ou ils n'ont pas mis une épée dans l'eau. S'ils l'ont montré, la France a été les premiers en Europe à l'avoir vu. Je pense que c'est plus que dans les tuyaux, parce que ce qu'on a vu, sincèrement, on a manipulé toute la presse pendant une semaine. C'est un prototype unique. Ce qu'on a vu, on aurait dit, on nous le vend demain matin. Il est dans les échoppes. Moi, j'aurais dit, il est viable. Bien sûr, il manque encore oui. la caméra selfie. Il manque un peu l'architecture à l'intérieur, au niveau de ce qu'on peut mettre dedans. Mais on nous dit, moi, je l'ai vu. J'ai vu un truc viable. C'est-à-dire pas un truc qui était proto. Il y avait même pas un ingénieur chinois qui était à côté du produit pour nous dire attention, hein, PPG-san, tu vas nous le casser, nous le bousiller. Non, je suis parti avec le produit, avec mon caméraman, on s'est barré avec. Hein. Donc le produit, il est. Non, mais c'est un signe. Quand c'est un prototype qui n'est pas viable, il ne te laisse pas toucher le produit, il ne te laisse pas partir avec. Ouais. Là, on a pu se barrer dehors, faire des images sur le balcon et tout, je ne sais pas quoi, sur la terrasse. Donc pour moi, le produit, il est viable. Je pense qu'il est intéressant, qu'il va coûter une blinde. Qui va être fragile parce qu'on peut pas protéger un truc quand il est détendu. Il faudra faire attention à ça, mais après tout, les pliants sont fragiles aussi parce qu'ils craignent l'eau, l'humidité, les différences de température. Mais je suis tenté d'y croire peut-être plus que le pliant, qui est malgré tout une idée extraordinaire. Mais ça m'a bluffé. Ça fait partie peut-être de mes 20 chocs professionnels dans toute ma carrière. Ça m'a super bluffé. La vidéo est sur la chaîne si vous voulez aller voir ce que ça donne.
Sur la chaîne PP World, elle est assez magnifique. Pour qu'on ait une idée un petit peu de la proportion, on a un téléphone qui fait une taille de téléphone à peu près classique et qui s'étend sur la largeur, qui gagne quoi, 40% de surface à peu près, quelque chose comme ça.
40 à 50%, ouais.
Ouais. Donc c'est pas que il triple de taille, mais on a quand même un confort d'utilisation pour certaines utilisations qui est notable. Et ils avaient eux certaines applications qui utilisaient cette fonctionnalité. On imagine que il faut développer les applications spécifiquement pour ça, mais Android se dirige dans cette direction depuis un moment déjà.
Ouais, de toute façon, ils le font pour le Fold. Mais oui, non, parce qu'en fin de compte, ce qui permet le produit, quand on regarde la vidéo, justement, j'ai fait exprès de filmer le produit quand il s'étire, il y a une adaptation déjà du logiciel, et bien sûr, il peut faire une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc, il peut aménager déjà des applications existantes sans avoir à les étirer. Il peut mettre une à côté de l'autre, il peut faire une sorte de fondu. C'est assez bien fichu. Les mecs ont bien pensé le truc, ça m'a beaucoup... Et c'est pour ça qu'on l'a vu, Patrick, parce que s'il n'était pas bien fichu, on l'aurait vu quelque part en webinar, il nous l'aurait montré à l'envers,
sous, des éclairages de merde. Sous une cloche de verre, ouais, c'est ça. Ouais.
Si on l'avait, c'est qu'ils avaient déjà pensé le truc. Si on l'avait entre les mains et qu'il n'y avait pas un ingénieur chinois qui était là, c'est qu'il était pensé et presque finalisé. Ah, c'est mon avis.
Écoute, c'est enthousiasmant, effectivement. La première, les premiers écrans, alors dans les faits, c'est une sorte d'écran pliable, même s'il se, c'est la propriété de pliabilité, de pliure d'un écran, mais c'est la première version d'un écran extensible, on va dire, ou modulable, qui est vraiment convaincant, je crois, pour tout le monde. Alors ensuite, reste à voir les utilisations, mais ouais.
Oui, c'est convaincant. C'est convaincant techniquement. Nous, on a essayé de le bouger un peu, de voir s'il se pliait, parce qu'il y a l'architecture qui se déplie, en fin de compte. C'est comme des griffes qui s'ouvrent derrière pour le maintenir, l'écran, quand il se déroule, parce qu'il est escamotable, il se déroule. Et nous, on a vu, c'était quand même extrêmement solide. Dans la vidéo, on voit bien que l'architecture et l'armature est super bien fichue. Ils n'ont pas encore placé la carte SIM dedans, ils n'ont pas placé la selfie cam, on voit très bien où on l'a placé. Mais l'idée de base me semble vachement viable. Je peux me planter, hein. Je peux vulgairement, comme on dit, dire de la merde, hein, mais je pense que c'est super viable. Ça m'étonnerait qu'il n'arrive pas. Ou alors vraiment, d'accord, ils ont un gros problème industriel derrière pour arriver à le sortir. Il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls à faire ça.
Bien sûr, oui, on peut imaginer que même l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont montré comme ça en version prototype, c'est peut-être qu'ils savent que ça va arriver derrière d'autres constructeurs et qu'ils ont voulu être les premiers. Oui. D'accord. Bah, très bien, merci beaucoup, Pépé.
C'était un plaisir.
Mais un plaisir pour nous, comme toujours. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet, notamment ta chaîne Pépé World, bien sûr, sur YouTube.
Ouais.
Mais dis-nous tout.
Ouais, mais Rapidos, je suis également sur le stream.fr, donc sur Twitch, la grande chaîne gaming. J'ai la chance d'être également sur Frandroid pour faire des missions qui s'appellent Ask, où les gens posent des questions, on répond, c'est super cool. Et de faire également, de travailler sur le média YouTube, sonvideo.com. Enfin, moi, j'ai énormément de chance, je suis très très chanceux et je vous remercie dans tous les cas de m'avoir accueilli aujourd'hui et je vous fais des gros bisous, voilà.
Merci beaucoup, Pépé. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ton expérience. À la prochaine.
Merci, merci Marion.
Ciao, ciao.
Ciao tout le monde. Salut. Ciao, salut. Ciao.
Alors, bah écoutez, maintenant, on va passer au sujet. Ça a l'air vraiment cool, hein. On va pas en parler beaucoup plus longtemps du Oppo X 2021, mais un prototype vraiment cool. Maintenant donc, merci encore Pépé, maintenant donc les sujets un petit peu moins sexy, des sujets plus sérieux et importants bien sûr, qu'on va évoquer. Il y en a plein qu'on va évoquer, donc on va pas essayer de pas passer trop longtemps sur chaque sujet. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans l'émission, il n'y a pas un énorme sujet sur lequel on va passer une demi-heure, mais plein de petits sujets. Et le premier d'entre eux, c'est le fait que Google et la presse française a annoncé qu'ils étaient arrivés à un accord pour que Google rémunère les grosses institutions de la presse, enfin une association spécifiquement, pas une association, mais je vais vous dire le nom, c'est l'une de celles qu'on avait évoquées il y a quelques semaines, l'Alliance pour la presse d'information générale, qui est en gros un regroupement des plus gros sites de presse et des plus gros organes de presse en France. Et ils vont donc distribuer sur les trois prochaines années 22 millions de dollars annuellement à 121 publications. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau comme information. On savait qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. Mais ce qui est intéressant de noter, bon, il y a deux choses. D'une part, le fait que, évidemment, les rétributions vont varier en fonction des publications. On va de, par exemple, plus d'un million de dollars pour Le Monde à 13 000 dollars pour La Voix de la Haute-Marne. Donc, vous voyez que ça change en fonction de l'audience de la publication, ce qui est normal. Et l'autre chose, c'est qu'en contrepartie, on a quand même un accord de ces publications à apparaître dans le nouveau service de Google News qui s'appelle Google, c'est Showcase, je crois, Google News Showcase, qui donne accès aux articles qui sont dans Google News, même si ces articles sont derrière une plateforme payante. Donc, c'est quelque chose qui a un petit peu une contrepartie. Au final, ce n'est pas beaucoup d'argent pour Google. Ils apaisent la presse en France et ils récupèrent en même temps les articles disponibles sans que les gens aient besoin d'être abonnés aux publications en question quand ils passent par Google News. C'est une bonne affaire pour tout le monde, sauf peut-être pour la presse qui ne fait pas partie de ces grosses institutions, qui n'est pas hyper contente. Et j'ai vu plusieurs voix s'élever, notamment sur Twitter, pour dire « c'est bien gentil, c'est encore les gros qui se goinfrent et les nouveaux qui n'ont pas qui n'ont pas fait des mains et des pieds avec le gouvernement et sur Internet et qui se démerdent tout seuls, eh ben, ils sont encore laissés sur le côté. » Bon, c'est effectivement notable. Je vous confirme que le Rendez-vous Tech, n'étant pas un organe de presse officiel, ne recevra pas d'argent de Google. Donc, je peux encore continuer à dire que Google, ils sont vraiment méchants. Non, je plaisante, je ne remets pas du tout en question l'indépendance de la presse, évidemment, vous le savez bien. Une remarque sur ça, c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que Google a capitulé? Est-ce que c'est un coup de Trafalgar pour faire taire la presse en continuant à les exploiter de la part de Google? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ibrahim, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus?
Moi, oui, je peux. Enfin, la problématique par rapport à ça, c'est si on se demande qui profite de l'autre, en fait, parce qu'il y a aussi les organes de presse qui profitent de Google pour se faire référencer et donc quand même rendre leur contenu visible et pouvoir sur leur page pouvoir vendre de la publicité aussi sur leur page. Le fait que Google accepte de payer, je pense que voilà, ça remet quand même l'église au milieu du village, parce qu'il y a une certaine toute-puissance de Google aussi par rapport au moteur de recherche et donc pour pouvoir trouver ce genre d'article. On est à plus que 22 millions par an, hein, vu qu'il y a 10 millions qui sont aussi payés pour sur 3 ans pour qu'il n'y ait pas de procès.
Tu as raison, ouais, 76 millions au final.
Ouais. Exactement. Et il y a même je crois que Le Monde et des grands noms comme ça reçoivent aussi 3 millions à part, qui n'ont rien à voir avec...
Oui, Le Monde, Le Figaro et Libération ont négocié en plus de cet accord 3 millions d'euros chacun par an que Google doit leur payer.
C'est assez... Comment dire ? On a vraiment l'impression d'avoir affaire... Je sais pas vraiment comment juger au final. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des gens qui ont... J'ai l'impression d'avoir affaire à des organes de presse qui ont fait pression sur un géant de l'Internet et qui ont fait un petit peu, qui ont eu une attitude de mafieux en disant « Ah, si vous nous donnez pas ce qu'on veut, vous allez avoir des problèmes hein. ». Mais en même temps, se dire que Google a été exploité par des organismes minuscules à l'échelle de Google comme Le Monde ou Le Figaro ou ce genre de choses... Je sais pas, Google est quand même pas un petit acteur qu'on peut bousculer s'ils ne veulent pas. Donc je sais pas quoi en penser.
A priori, Google n'a pas eu le couteau sous la gorge. Hein. C'est plutôt eux qui ont présenté les termes de l'accord et il n'y a pas eu de négociation. Vous êtes content avec ça, si vous n'êtes pas content, eh ben, personne ne vous trouvera parce que vous ne serez plus référencé sur Google. Enfin, et même en France, la force du moteur de recherche Google est quand même incontournable et les médias, en tout cas les journaux, ne peuvent pas se passer de Google pour mener les utilisateurs sur leur site internet et donc être rémunérés et gagner de l'argent aussi sur le contenu qu'ils produisent. Donc je suis d'accord avec vous, c'est un sujet très complexe et je ne suis pas sûre aussi que ça soit très scalable, dans la mesure que là, ça met un précédent en France.
Ouais, c'est ça.
Exactement. S'il faut qu'il fasse ça à chaque pays, ça va être particulièrement compliqué, chronophage pour les équipes de Google. Et aussi l'autre point qui a été largement critiqué, c'est l'opacité des termes de l'accord, c'est-à-dire sur quelle base vous avez défini telle rémunération pour le monde comparée à c'était la voix de la Haute-Marne. Ouais. Sur quelles données vous êtes basé pour définir la rémunération? Est-ce que c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est le nombre de visiteurs sur le site internet? Enfin, je sais rien.
C'est peut-être basé sur le pouvoir de nuisance des différents membres du lobby, peut-être. Bon.
Et c'est là où, en effet, ça pose vraiment un gros problème pour la compétition, la concurrence dans le domaine journalistique.
C'est quand même assez particulier comme problématique. C'est vraiment de se poser la question, c'est où ça va s'arrêter au fait. Là, c'est les journalistes. Il y a plein de créateurs de contenu qui ont des pages web et tout. Est-ce qu'eux aussi peuvent demander? Et si on revient, on va dire, ça, c'était quand même un système déjà connu. On a tous connu, enfin, je ne sais pas si Marion, mais je crois que Patrick, toi, tu as connu les bottins téléphoniques.
Hein. Tu dis
que
je suis vieux, c'est
j'ai connu.
Écoute, on est de la même génération, je pense. Donc, tu as connu les bottins téléphoniques, mais est-ce que tu te voyais demander une rémunération parce que ton nom apparaissait dans le bottin téléphonique, ou tu voyais ça plus comme un service où les gens pouvaient te trouver parce que t'étais dans le bottin téléphonique? Tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est cette question de parasite ou pas parasite, qui profite de qui. Et donc voilà, maintenant en tout cas il y a une porte qui s'est ouverte et on ne sait pas où elle va s'arrêter, parce que voilà, il y a plein de créateurs de contenu, il y a plein de gens qui pourraient aller dans avoir la même démarche et demander aussi d'être rémunérés.
Je te confirme que si Google veut me donner de l'argent, je ne suis pas forcément contre. Il faudrait voir les conditions. C'est marrant parce que Microsoft a appuyé sur le fait que dans le cadre de la loi en Australie qui veut la rémunération par indexation de manière un peu plus large, Microsoft insiste sur le fait que on pourrait, on pense qu'il faudrait que tout le monde fasse ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment une preuve de plus du fait que chacun essaye d'y trouver son intérêt, puisque Microsoft, si Google est en position un petit peu plus difficile, Microsoft en bénéficie avec son propre moteur de recherche. Donc bon, ils sont là en train d'aiguillonner.
Là, c'est très opportuniste de la part de Microsoft. Je dirais pas de mauvaise foi, mais c'est limite quand même.
Au moins opportuniste. Bon, il y a d'autres sujets qu'on va évoquer, notamment le fait que Huawei a engagé un procès contre la FCC. En gros, je vais vous résumer les choses, mais l'administration Biden est en train de mettre en pause les actions contre TikTok et contre WeChat d'ailleurs, mais sur Huawei, il reste relativement ferme, et donc Huawei est en train d'essayer d'arrêter les actions contre la société en arguant du fait que bon, il y a plusieurs actions légales, mais en tout cas, le gouvernement Biden ne touche pas à Huawei, mais il touche à TikTok. En tout cas, ils disent bon, on va faire une review des raisons de cette action, et pour le moment, arrêtons les menaces, on va dire. Et une autre chose qui est intéressante, qui est reliée à l'histoire de Huawei, c'est que à la fois en Europe et aux États-Unis, on a des actions qui essayent de, sur le moyen long terme, qui essayent de remettre la fabrication de puces dans le giron de l'action locale. C'est-à-dire qu'en Europe et aux États-Unis, il y a des plans de grande envergure qui vont tenter de ramener la fabrication de puces pour, dans une certaine mesure en tout cas, de manière locale, c'est-à-dire en Europe, en Europe pour l'Europe et aux États-Unis pour les États-Unis. C'est quelque chose qui est au niveau fédéral européen. Enfin, de l'Union, pardon, pas fédérale, de l'Union européenne. On nous a dit depuis des années que ce n'était pas possible de se mettre à fabriquer des puces parce qu'il y a une expertise et une spécialité, une expérience spécifique qui est difficile à reproduire. Alors, ça veut dire que c'est peut-être difficile sur un ou deux ans, mais si on voit sur plus longtemps et s'il y a un engagement général au niveau gouvernemental, c'est sans doute possible, parce qu'il n'y a pas de raison. J'imagine que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est peut-être une bonne chose vu ce qui s'est passé ces derniers mois et cette dernière année. Marion, est-ce que tu souhaites avoir une vraie industrie des micros, des semi-conducteurs et de la lithographie en Europe ?
Je pense que là, on parle des semi-conducteurs, en effet, mais cette question se pose sur d'autres domaines, et on l'a vu aussi l'année dernière, sur la dépendance sur la production de certains composants ou biens qui sont faits à l'étranger et qui peut poser des problèmes, notamment en situation de crise, de pénurie, etc. Et c'est intéressant, je pense, de se poser ce genre de questions. Maintenant, au-delà de se remettre à produire des semi-conducteurs, il va falloir aussi être capable d'être suffisamment compétitif sur le marché pour qu'ils soient achetés et intégrés dans les équipements qui vont être produits. Et ça, c'est plutôt là-dessus où moi, je m'interroge.
Alors,
pas grand-chose, mais...
Le plan, ça serait un deal de l'Union européenne avec TSMC, ou enfin un autre constructeur de chips là, mais donc un constructeur de grande envergure, pour qu'il fabrique des puces qui sont dans les toutes dernières, enfin des procédés de fabrication qui sont de l'ordre de 5 à 8 nanomètres. Donc on est vraiment dans le mieux qui se fait aujourd'hui. Alors une fois que ça sera terminé dans 2, 3 ou 5 ans, peut-être que ça sera pas aussi super méga... haute technologie, mais je crois qu'en même temps, c'est une question qui est importante à poser, mais en même temps, l'idée n'est pas de produire forcément le nec plus ultra de la technologie, mais peut-être d'avoir des trucs qui peuvent fonctionner et d'avoir une partie de la production pour le cas, effectivement, où on a des problèmes d'approvisionnement ailleurs, et des trucs qui fassent pour les 10 ans à venir une alternative, qui sera peut-être pas la meilleure, mais qui fasse une alternative. Et si on travaille avec les bons, il n'y a pas de raison que ça soit pas possible, je crois.
Bah si, la raison, c'est la rentabilité, en effet. C'est qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, cette proposition serait rentable en Europe ? Et ça, honnêtement, je ne connais pas les modalités du marché, etc. Mais pour moi, c'est la plus grosse question. Est-ce qu'ils vont être capables, en effet, avec ce deal avec TSMC, d'avoir une rentabilité suffisante pour que ça soit viable ? Ouais. Mais en effet, sur l'idée, je trouve que c'est intéressant.
Je crois qu'effectivement, il y a une question de rentabilité, tu as évidemment raison, qui se pose. La question de la souveraineté aussi se pose dans cette discussion, quoi. Et bon,
ouais,
à voir.
Tout à fait, à l'écœur, oui, à l'écœur, ouais.
Apple, tiens, parlons un peu d'Apple. Il devrait y avoir sur l'iPhone 13 un écran qui serait always on, toujours activé pour donner l'heure. Les utilisateurs d'Android rigolent parce qu'ils ont des modèles de ce genre depuis bien longtemps. Mais surtout, dans la prochaine Apple Watch, on aurait possiblement un capteur qui capte le taux de sucre, donc encore un capteur de santé. Et on en parlait de cette question du taux de sucre pour la question du diabète depuis longtemps, et ça serait un marché énorme pour Apple. Et on a aussi des estimations qui disent qu'il y aurait aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs d'Apple Watch dans le monde, ce qui est une augmentation de 30 millions juste sur 2020. Rendez-vous compte. Et il y a 35% des utilisateurs d'iPhone aux États-Unis, on parle des États-Unis spécifiquement, mais 30% ou 35% des utilisateurs d'iPhone qui portent une Apple Watch. Je crois qu'on peut dire assez clairement que l'Apple Watch est un succès. Je ne sais pas, Ibrahim, est-ce que toi, tu es côté Android ou côté Apple plutôt ?
Ah non, moi je suis complètement Android, hein, donc par contre j'ai un iPhone, je me trimballe maintenant avec deux téléphones pour Clubhouse, tu vois, donc voilà.
On va en parler de Clubhouse.
100% Android alors.
Juste pour Clubhouse, j'ai un iPhone, et, tu vois, et mais je suis 100% Android, et les chiffres, par rapport aux chiffres que tu cites, tu vois, 35% d'utilisateurs d'iPhone aux États-Unis qui ont une Apple Watch, ça explique pourquoi, je pense, ça explique pourquoi ils veulent mettre un détecteur de sucre sur les smartphones.
Un capteur de qui évalue le sucre dans le sang, parce qu'aux États-Unis, effectivement, ils ont peut-être plus de problèmes de ce type. Ouais.
Alors, aux États-Unis, c'est vrai qu'ils sont connus pour avoir une large population diabétique et pré-diabétique, ou même des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. ce qui est un vrai problème. Mais c'est vrai que ça fait un marché très très tentant pour se lancer sur la santé avec une montre connectée qui peut offrir d'autres services que juste la santé, mais qui va également aider à monitorer la santé des porteurs, quoi.
Ouais, exactement. Tout à fait, ouais. Et je pense qu'il y a un effet confinement aussi, hein, où là, il y a plein de gens qui ont voulu faire du sport chez eux et par eux-mêmes, vu que les salles de sport étaient fermées et vu qu'on était confinés en général, les gens voulaient se bouger et donc ils sont tous équipés, je pense, avec des Apple Watch et ça fait que voilà, ils en ont vendu 30 millions en 2020, c'est ce qui est juste énorme.
C'est assez impressionnant.
Très impressionnant, mais aussi je pense que elle s'est trouvée, l'Apple Watch, ces dernières années. On le dit depuis un moment. C'est un objet qui avait plein de petites utilisations, mais qui n'était pas complètement convaincant. Et puis là, depuis quelques années, c'est vraiment le sport essentiellement et la santé. Et bah du coup, elle sait ce qu'elle est et les gens savent pourquoi ils vont l'acheter. On pose la question dans la chatroom. Comment ça fonctionnera techniquement? C'est un rayonnement électromagnétique terahertz, donc très très haute fréquence. Je dis ça, je lis juste l'article de iPhone.fr. Très haute fréquence qui effectivement change son retour en fonction de la quantité de sucre dans le sang. Alors c'est pas du tout aussi fiable que le fait de se piquer et de prendre une goutte de sang, bien sûr, mais ça peut donner une indication pour une utilisation, on va dire, en complément du reste. Et peut-être que ça aura des avantages ailleurs pour d'autres personnes, même chez ceux qui sont pas spécifiquement diabétiques, à voir. Et puis, c'est encore un brevet. Hein, donc, peut-être que ça ne sera pas sur la prochaine, mais c'est possible. Je mentionne aussi que Facebook, qui n'est jamais bien loin quand il s'agit de copier le succès des autres, est en train de concevoir une montre, enfin, serait en train de concevoir une montre pour Android qui se concentrerait sur la santé et le sport, qui devrait être lancé en 2022. Et ils sont aussi en train de concevoir un outil type Clubhouse, donc de chat audio, qui serait là au tout début de leur développement. Mais comme on le disait, ça va arriver. Du coup, là, on te parle pile à toi, Ibrahim. Clubhouse sur Android et une sorte d'Apple Watch sur Android, mais les deux viennent de Facebook. Est-ce que tu es prêt à les utiliser ou est-ce que tu dis non ?
Pour être honnête avec toi, je suis prêt à les utiliser, mais par contre, je ne sais pas si avec un marketing Facebook, ça pourra fonctionner. Ils auraient dû plus marketer ça Instagram que Facebook, en fait. Parce que,
Alors, c'est encore en développement. Hein. On ne sait pas comment. Non. Si ça se trouve, ça sera Instagram. On n'en sait rien. Mais,
mais clairement, mais je pense vraiment que Facebook doit pouvoir, s'ils veulent continuer à vendre des produits de manière. Où la com est plus. Où la com fonctionne mieux. Je pense que vraiment, ils doivent pouvoir se démarquer à ce niveau-là. Moi, je pourrais les utiliser parce que je fais très attention à ce que je donne comme data et c'est toujours avec mon aval que je le donne. Par contre, il y a plein de personnes qui ne seront pas d'accord peut-être de les utiliser. Moi, par exemple, la stratégie, Twitch, on est sur Twitch, peu de personnes savent que c'est Amazon, par exemple. Mm-hmm. Très peu de personnes.
Ah bah, pour Facebook, je crois que pour la montre et le Clubhouse Facebook, tout le monde saura parce qu'ils sont tellement sous le feu des projecteurs. Mais bon, écoute, on verra si ça arrive dans quelques années. Un dernier sujet que je voulais évoquer avant le break, c'est un sujet que j'évoque parce qu'on en a parlé sur le Discord. Et il y avait des gens qui me disaient, il se passe des trucs autour du Bitcoin. Et donc, je voulais faire au moins un sujet Bitcoin. C'est vrai qu'on en parle régulièrement dans l'émission, mais je trouve qu'il ne se passe pas. Il se passe des choses dans le monde du Bitcoin et des crypto-monnaies, notamment avec les Dogecoin qui ont quintuplé en valeur, c'était marrant. Mais il y a un truc vraiment intéressant qui se passe avec les bitcoins, c'est cette initiative de Jack Dorsey et Jay-Z qui ont investi 500 bitcoins, ce qui fait entre 20 et 25 millions de dollars, avec 500 bitcoins quand même, à la valeur actuelle, qui veulent en faire un fonds qui est complètement indépendant d'eux, pour faire en sorte que le Bitcoin devienne la monnaie de l'Internet. Et ils vont commencer le développement au départ en Afrique et en Inde. Et c'est donc un fonds qui a 25 millions de dollars, 23,6 au moment de la rédaction de l'article, qui s'appelle le BitTrust. C'est intéressant parce que Alors, il continue à se passer des choses au niveau du Bitcoin. La valeur d'un Bitcoin a dépassé les 50 000 dollars il y a quelques jours de ça. Et souvenez-vous, ils étaient à 10 000 il y a quelques années. Hein, donc, et même bien en dessous, évidemment, si on repart un peu plus loin. Mais là où ça me paraît intéressant, c'est que des gens comme, je ne sais pas pourquoi, Jack Dorsey et Jay-Z ensemble, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Le truc, c'est que le Bitcoin a énormément de problèmes. Son instabilité est un problème évident. L'hostilité de certains gouvernements en est un autre. Il y a également le fait que la consommation électrique du Bitcoin, pour le minage bien sûr, ça représente, je ne sais plus en quantité d'énergie spécifique combien c'était, mais c'est l'équivalent d'un pays comme la Norvège. Le minage aujourd'hui du Bitcoin, la quantité d'électricité que ça consomme, mais il n'y a pas que le minage, il y a les transactions. Les transactions prennent super longtemps, à moins de payer pour l'accélérer, parce qu'elles sont basées sur des calculs également, les transactions, et elles utilisent énormément d'électricité aussi. La résolution d'une transaction prend parfois plusieurs minutes, parfois même plus longtemps que ça, une heure ou deux, ou même plus, en fonction de la priorité, et surtout, ça consomme également de la... je dis peut-être une bêtise sur la durée de la transaction, mais en tout cas, ce n'est pas du tout instantané, c'est au moins 30 minutes, voire plus. Et la consommation électrique est conséquente également. Les crypto-monnaies sont très intéressantes, mais le Bitcoin est installé de fait et par défaut comme la crypto-monnaie la plus utilisée. Et clairement, elle est utilisée, elle sert dans, elle a une vraie utilité sur Internet et ailleurs, mais elle est techniquement problématique, je trouve. Donc, l'idée d'en faire la monnaie de l'Internet, c'est pas extensible à jamais, le Bitcoin, j'ai l'impression. Je suis pas inquiet, mais je suis circonspect, on va dire, par rapport à cette initiative et le Bitcoin en général. C'est mon petit laïus sur le Bitcoin. Ibrahim, tu as un avis sur le Bitcoin ? Je vois que tu t'apprêtes à parler.
Moi, je suis très crypto sceptique, donc voilà. Moi, j'ai pas été beaucoup à l'école, donc il faut qu'on m'explique les choses simplement. Quelle valeur il y a derrière une crypto-monnaie, à part la valeur qu'on veut bien lui donner, à part donc une valeur de spéculation. Donc, et quand on veut, quand Jay-Z et Jack Dorsey veulent en faire une monnaie de l'Internet, est-ce que c'est la blockchain qu'ils veulent faire et veulent l'utiliser comme technologie pour
Non, le Bitcoin existant. C'est vraiment le Bitcoin existant. Hein, donc,
Oui. Déjà, c'est limité à 21 millions, je crois, les bitcoins. C'est pour ça que c'est aussi cher et c'est très populaire. C'est l'une des
Après,
premières...
ça se divise. Hein. Un bitcoin, tu peux en avoir une division au millième de, je sais pas combien exactement, mais ça se divise très, très, très en fractions très faibles. Donc,
Et voilà, moi pour moi ça reste une valeur spéculative tant qu'elle n'est pas liée à un actif ou en tout cas à une demande de crédit ou à un PIB d'un pays ou peu importe, tu vois. Ça reste une valeur très spéculative et pour moi, enfin voilà, moi il y a très peu de monde qui arrive encore à pouvoir l'expliquer très clairement. La valeur est basée sur quoi?
Bah, y a plein de gens qui te diraient oui, mais c'est la même chose dans la bourse, c'est la même chose pour les monnaies, les vraies monnaies entre guillemets, l'euro ou le dollar. C'est pas tout à fait vrai parce qu'évidemment, on est adossé à une économie qui est plus fiable. Oui, ça peut être décorrélé d'une valeur réelle, mais il y a quand même une valeur réelle derrière, même si elle est décorrélée en partie. Et pour répondre à la question que se posent certains, notamment dans la chatroom, une transaction de banque classique consomme beaucoup, beaucoup moins que la transaction Bitcoin au niveau de l'électricité. Donc, c'est pas vrai de dire que ça consomme autant. Donc, bon, et puis il y a ensuite le problème du fait que les gouvernements ne veulent pas que le Bitcoin soit considéré comme une monnaie, mais c'est un avoir qui fait qu'on peut être imposé dessus, etc., etc. Et en même temps, certains gouvernements disent qu'il faudrait qu'on ait une sorte de stablecoin pour se préparer à une transition de ce type-là et qu'on puisse utiliser un stablecoin qui soit prêt, donc une crypto-monnaie, mais faite sérieusement par un État. Et du coup, moi je dis, mais le Libra de Facebook, c'est exactement ça. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, ils ont changé de nom. Mais c'est ça qu'ils ont préparé. Donc prenez ça, c'est tout simple.
Et justement, par rapport à Libra, comme toi, je ne me rappelle plus du dernier nom de... C'est pas... Oui, non, je ne sais plus. Est-ce que justement, le fait que Jack Dorsey soit derrière justement le fait de soutenir Bitcoin, ce ne serait pas aussi pour couper l'arbre sous le pied à Facebook?
Ah,
j'en sais rien, c'est vraiment une question.
J'ai pas l'impression que Dorsey soit particulièrement belliqueux avec, avec Facebook. Ils en ont pas. Mais peut-être, c'est un angle intéressant, j'y avais pas pensé. Bon, on va continuer dans les sujets divers qu'on va évoquer. On va encore faire plaisir à tout le monde en parlant de Clubhouse dans une seconde. Mais je voudrais avant ça quand même dire un mot sur Patreon. Vous savez que Patreon, c'est le système qui vous permet de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous pouvez choisir, alors vous ne pouvez pas payer en Bitcoin, hein, peut-être heureusement ou malheureusement, mais vous pouvez choisir de donner 1 euro, 2 euros, 3 euros pour l'émission que vous appréciez bien sûr, et vous choisissez absolument tout, la somme que vous donnez, combien de temps vous donnez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, et en contrepartie, vous avez des bonus super cool, des bonus comme le fait d'avoir les émissions sans pub, sans cette promo au milieu, sans, avec des contenus bonus en plus de ça, des petits éditos sympas où je vous parle de ma vie et de la manière dont je fais le Rendez-vous Tech. Vous avez également une extension de la newsletter, vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter publique, mais il y a une newsletter étendue qui est distribuée aux Patriotes. Vous avez également accès aux notes de l'émission avec timecode, si vous voulez sauter certains passages qui vous intéressent un petit peu moins, etc., etc. Il y a des tonnes de bonus super cool. Et en plus de ça, bien sûr, vous avez le plaisir, la joie, le bonheur de soutenir une émission que vous appréciez. C'est d'une pierre deux coups, d'un euro de bonheur, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et le lien est bien sûr dans les notes de l'émission et vous pouvez soutenir l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite depuis votre smartphone, c'est magique, hein, ça marche qu'il soit Android ou iOS. C'est un truc universel qui s'appelle Internet, le web. Ça fonctionne super bien sur les deux plateformes et même sur Windows. Donc, soit vous le faites maintenant quand vous êtes en train de vous balader, soit vous attendez de rentrer chez vous, vous mettez vos clés dans le bol et vous pouvez à ce moment vous rappeler que cling, les clés qui font dans le bol, et ben ça veut dire Patrick, il faut aller voir ce qui se passe sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez le faire quand vous voulez, comme vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez, franchement, il n'y a pas de raison de se priver, en plus avec les bons bonus, c'est patreon.com/rdvtech et je vous remercie tous de soutenir cette émission et de me permettre de faire mon travail d'animateur et de podcasteur à temps plein et de me consacrer à ce travail que j'adore évidemment et je vous adore en retour puisque vous me permettez de le faire. Patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors, Clubhouse, tiens. On continue à parler beaucoup, beaucoup de Clubhouse. Si vous voyez les notes de l'émission, vous voyez que j'ai plein de, d'articles sur Clubhouse. Il y en a plein qui sont intéressants. Il y en a deux que je retiens, qui seront aussi dans la newsletter, bien sûr, qui sont d'une part le fait que Clubhouse amène la modération à un niveau encore plus difficile qu'il ne l'était jusqu'à maintenant pour le texte, ça on le savait déjà, mais il y a aussi un problème qui est que, bien sûr, il faut pouvoir bloquer les gens soi-même si on veut pouvoir modérer efficacement un réseau social, et Clubhouse est en quelque sorte un réseau social, mais ça amène un problème auquel on ne pensait pas forcément, c'est que quand on est bloqué sur Clubhouse, on ne peut plus accéder aux chambres, aux salles, que commence, que lance une personne qui vous a bloqué. Et là où sur Twitter ou Facebook, si le profil n'était pas privé, on pouvait encore aller voir une discussion publique, même si on était bloqué, parce qu'en n'étant pas logué sur le service, eh ben, on peut aller voir ce qui se passe sur le flux de la personne en question. Et si c'est un flux public, il est intéressant et important qu'on puisse avoir accès à l'information. Sur Clubhouse, eh ben, on peut être carrément sorti de la conversation publique. Il y a des gens, par exemple, qui ont bloqué plein de journalistes et des personnalités publiques qui bloquent plein de journalistes. Et du coup, il est très difficile pour ces journalistes d'aller écouter ce qui se passe dans les salles lancées par ces personnes-là. Alors, dans l'article, la personne en question argue du fait qu'il faut pouvoir continuer à bloquer sur Clubhouse malgré ce problème. Mais il est hyper intéressant de noter que ce problème peut être un vrai problème, véritablement éthiquement, moralement problématique, parce que si c'est une personnalité qui a une valeur publique et qu'on ne peut plus accéder à ce que la personne dit ou explique, c'est quand même quelque chose à considérer, quoi. Il y a d'autres sujets, comme par exemple le fait que Clubhouse est en train de créer en audio ce qu'ont créé les réseaux sociaux. C'est un article de Ben Thompson sur Strategery qui explique de quelle manière on va pouvoir reproduire avec un outil comme Clubhouse ce qui a été fait par les réseaux sociaux, c'est-à-dire un truc centralisé qui peut être ensuite monétisé et qui connecte très facilement le créateur de contenu à son audience, un truc que n'a pas aussi bien réussi le podcast, et je suis assez d'accord que le podcast a des problématiques différentes. Mais en gros, l'effervescence continue autour de Clubhouse. Il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien. Bon, tu l'utilises clairement, Ibrahim. Tu te trimbales même avec un iPhone pour l'utiliser et pour pouvoir y avoir accès. C'est une mode ou tu crois que ça va avoir un impact durable sur la communication audio ?
Moi, en tout cas, pour mon cas, moi, je l'utilise vraiment parce que c'est le début et que voilà, il y a beaucoup de groupes, mais ça reste encore gérable et il y a surtout le monde de la tech qui a pris possession de cette application et donc voilà, ça reste des groupes qui m'intéressent beaucoup. Avant, où je cherchais un podcast à écouter pendant mes trajets en Uber ou à vélo ou quoi que ce soit, là maintenant, je me cherche un groupe sur Clubhouse et je vais écouter.
Moi, c'est ça pense... Attends, excuse-moi, ouais. Je veux juste préciser, c'est ça qui est dans l'article de Ben Thompson, c'est l'un des éléments qu'il met en avant très justement, c'est que Clubhouse va pouvoir vous présenter un sujet, une discussion sur un sujet qui va vous intéresser. C'est un truc qui manque dans les podcasts notamment, qui est sur cet aspect un élément qui est comparable ou le plus proche. Les podcasts, c'est difficile d'avoir un truc qui va vous recommander une discussion qui va vous plaire. Il faut aller fouiller et la chercher vous-même. La Clubhouse, ça peut vous la faire ressortir. Et c'est l'utilisation que t'en as, en fait.
Exactement. Donc, il y a vraiment les sujets qui sont assez pertinents par rapport à l'utilisation qu'on a. Mais il y a aussi cette possibilité que le podcast ne nous donne pas, c'est de pouvoir, même si on ne le fait jamais, moi je ne l'ai jamais fait, mais de pouvoir intervenir quand on entend des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez préciser certaines choses ou il y a une erreur, alors que le podcast ne le permet pas, sauf si on est sur Twitch, en direct. Et donc, il y a ce côté-là, mais je pense vraiment que le succès de Clubhouse actuellement, c'est le fait que c'est restreint. Et je suis persuadé, enfin voilà, moi ça m'arrive d'écouter des groupes un peu, là il y a eu la Saint-Valentin, il y a eu plein de groupes sur les dates ratées de la Saint-Valentin. Et c'était marrant, c'est même, je veux dire, on n'est même plus dans la tech, là, on est juste pour passer un bon moment pendant qu'on travaille ou quoi que ce soit, on écoute des personnes raconter leurs pires dates, c'est très marrant. Mais j'ai vraiment très peur qu'il y ait plus de monde, plus de groupes et donc trop d'infos tue l'info et c'est son succès qui risque de tuer cette application, ouais. Je pense.
Et enfin, comme on l'a dit, il y a énormément de problèmes. La modération au premier d'entre eux qui est vraiment compliquée, quoi. Une série d'autres sujets, un autre article que j'ai trouvé hyper intéressant de Will Oremus sur OneZero qui explique en quoi la problématique de Facebook qui essaye de supprimer les updates politiques, c'est une mauvaise idée, en fait, c'est une fausse bonne idée. Ce qu'il dit, je vais vous le résumer, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on ne veut pas moins de politique sur Facebook, on veut un système qui n'oriente pas la politique. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a, comme partout, des algorithmes qui sont biaisés pour l'engagement et donc le clic et le buzz, ça influence le type de politique qui est fait et le type de politique qui est fait sur les plateformes en particulier, et donc dans le monde, puisque ces plateformes sont importantes dans le monde aussi. Et donc, ce qu'il dit, c'est que on se trompe de direction si on veut avoir moins de politique sur Facebook. C'est une direction qu'a d'ailleurs pris Facebook en réduisant la portée de certains sujets politiques. Au-delà du fait qu'il devient très compliqué à un certain horizon de définir, de décider plutôt ce qui est politique ou pas, tout à fait justement, il peut y avoir des choses qui sont politiques ou pas, ou bénéfiques ou pas, dont on veut entendre parler, mais au-delà de ça, il dit que le vrai problème, c'est la manière dont la politique est orientée et transformée par les algorithmes. Et c'est une manière de penser la chose à laquelle je n'avais pas pensé, justement, jusqu'à maintenant, et que j'ai trouvée particulièrement judicieuse.
Je trouve que ça s'applique à la politique, mais ça s'applique à de nombreux sujets, et d'où aussi la question de qu'est-ce que c'est la définition d'un contenu politique ou non. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et autres, veulent de l'engagement. Pour générer de l'engagement, si tu génères du sentiment fort, ça permet d'avoir plus d'engagement. Qu'est-ce qui génère plus facilement de l'engagement fort? C'est de l'outrage, pas des sentiments forcément très très positifs qui vont vouloir te pousser à la réaction et qui vont porter ou formater les échanges sur ces plateformes dans un sens qui n'est pas forcément très constructif. Et moi, je le vois que ce soit sur des sujets politiques ou des sujets pas politiques, que ce soit de la musique, des artistes, que ce soit chocolatine, pas au chocolat, enfin, on peut dire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Non, tout à fait. C'est intéressant que tu dises sur la musique. Sur la musique, oui. Ça a une influence de quelle manière? Tu veux dire ça influence le type de contenu qu'on crée parce qu'on veut faire des trucs qui sont catchy ou c'est plus profond que ça?
C'est plutôt pour nourrir des petites polémiques. Prends la polémique Oasis Blur. Tu vas avoir si aujourd'hui on avait Oasis Blur en 2021. Je sais là, je suis un peu vieille en disant ça, mais on aurait les fans qui seraient en train de s'écorcher sur les réseaux sociaux. Tu vois.
Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, dans tous les domaines.
Ça encourage.
Ouais. Disons que tous les domaines sont touchés, je suis d'accord. La politique est peut-être l'un des domaines auxquels il faut prêter encore plus attention que les autres, même si aucun n'est anodin.
Exactement, mais en fait, c'est juste que la politique, c'est beaucoup plus facile d'avoir des clivages d'opinion en politique ou, tu vois, dans tout ce qui est anti-vax, etc., santé, il y a des sujets comme ça, des domaines qui sont particulièrement sensibles et qui vont générer ce genre de radicalisme, mais d'opinion tranchée. Et on va avoir du mal à s'écouter, à écouter les arguments des uns et des autres. Et en fait, les réseaux sociaux poussent un petit peu à ce type d'échange. En tout cas, moi, c'est mon impression personnelle, c'est que dont on va orienter et booster les tweets ou les messages qui vont pousser à l'engagement, ça va orienter le type d'échange qu'on va avoir. Pas forcément sur les domaines en eux-mêmes, mais sur la manière d'avoir ces échanges. Et je pense que c'est ça aussi le problème.
Bien sûr.
C'est des phénomènes très connus, hein, Marion, et tu as tout à fait raison. C'est des phénomènes comme les chambres d'écho et tout ça, où on entend toujours le même discours, donc on est persuadé qu'on a raison. Et donc, en politique, c'est quand c'est un message politique, c'est super important de pouvoir, de pas pouvoir calquer ça sur le même algorithme et de pouvoir faire en sorte que, par exemple, que les personnes qui ont un discours un peu plus radical ne puissent pas avoir que des discours comme ça pour confirmer ce qu'ils ont commencé à penser ou et en faire une confirmation dans leur esprit. Donc, sur l'algorithme en lui-même, je suis assez d'accord qu'il faut pouvoir, en tout cas pour les messages politiques, pouvoir diversifier les messages pour au moins que les citoyens puissent avoir le panel et pas toujours le même genre de message et être convaincus.
Mais tu tombes là dans le problème que soulevait Patrick, c'est-à-dire qu'est-ce que tu définis comme politique ou pas. Exactement. Et à quel moment tu dois inclure de la diversification ou pas. Parce que c'est aussi un risque pour ces plateformes de perdre les utilisateurs si on les confronte à des messages pour lesquels ils ne sont pas réceptifs. Donc c'est ça aussi, c'est très compliqué.
J'ai une solution pour vous. Alors, d'une part, le co-chair du Facebook Oversight Board a dit « Si on arrive à faire les trucs correctement, il n'y a pas de souci pour que Twitter ou d'autres utilisent l'Oversight Board. On est indépendant de Facebook, donc peut-être qu'un jour, on aura le Oversight Board des réseaux sociaux qui sera étendu partout et qui gérera YouTube, Twitter, etc. » Bon, l'idée est intéressante, mais surtout, la solution, c'est Jack Dorsey qui a suggéré l'idée d'avoir un store pour les algorithmes. Et c'est une idée qui est vraiment intéressante. Je ne suis pas convaincu que ça aide ou que ça amplifie le problème, mais qui s'est dit, on a Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux qui ont les données et on peut vous proposer différents types d'algorithmes. Un algorithme qui va privilégier les sujets plus légers, un algorithme qui va vous montrer des sujets intéressants, des sujets scientifiques, des sujets politiques, etc. Mais avoir des choix dans les types d'algorithmes. Alors évidemment, on va se dire, il y aurait des algorithmes plutôt conservateurs, des algorithmes plutôt libéraux, pour ne parler que des États-Unis. Mais là encore, je trouve l'idée intéressante, peut-être à explorer, en sachant bien que ça peut aussi mener à des catastrophes. Mais l'idée, je l'ai trouvée intrigante, on va dire.
Ouais, je trouve que là, ça rejoint un petit peu ce que disait Ibrahim, où en fait, on va se retrouver devant des personnes pour lesquelles ils vont voir, bon, c'est déjà le cas aujourd'hui, et je pense qu'on l'a toujours eu à n'importe quel moment, mais qui vont voir le monde sous des prismes complètement différents. Ouais. Et on aura beau leur dire, les faits scientifiques sont ceux-là. Et eux, ils vont dire, non, moi, ce n'est pas ce que je vois. Ce n'est pas mon monde. Et comment tu veux avoir une discussion constructive sur cette base-là? Après, compliqué. Encore une fois, c'est un sujet extrêmement compliqué.
Tu peux imaginer des algorithmes qui s'appellent genre Only Facts, No Fake News, qui soient en train de faire remonter les plus grosses fake news de la Terre, ou tu vois, les trucs, le Free Speech Central, où tu vas avoir que du free speech, où tout le monde peut parler, qui serait un refuge pour des contenus discriminants, ce genre de choses. Enfin, clairement, ça peut déraper. Mais l'idée, je la trouve vraiment séduisante. Bref, on verra si ça se concrétise. Encore quelques sujets avant de se quitter, parce que je sais que Marion, en plus, doit filer, et moi, mon fils est malade. Donc, on va même pas faire d'after show cette fois-ci. Désolé, mais mon fils est malade, il est à la maison, donc il va falloir que je file. Quelques sujets supplémentaires, un peu plus légers peut-être. Microsoft sort la Surface Duo en Europe à 999 $, donc autour de 1 000 €, soit 400 $ de moins quand même. Ça arrive dans 2 jours, en février. 400 $ de moins, ça fait beaucoup. On a également Microsoft qui est en train de tester enfin le Game Pass, le xCloud, par le web, donc pour PC et pour iOS. Donc le streaming de jeux vidéo arrive enfin du côté de Microsoft sur d'autres plateformes que juste Android. Là, Ibrahim peut rigoler parce qu'il l'a depuis longtemps. Et puis enfin, OnePlus, la nouvelle société de Carl Pei, qui était le cofondateur de OnePlus, une société de smartphones qui a fait beaucoup de bruit, bien sûr, pendant des années. Elle s'appelle Nothing, donc rien. Je trouve ça un petit peu intellectuellement masturbatoire comme nom, mais bon, pourquoi pas. Ils ont racheté Essential, la société d'Andy Rubin, le créateur d'Android, qui avait raté son coup en essayant de refaire quelque chose. Mais donc, ils ont acheté la marque et toute la société, qui ne devait pas valoir grand-chose, mais bon, voilà. Entre Microsoft
entre Nothing et Essential, on est pas mal en termes.
Effectivement, ouais, c'est un bon mélange. Disney Plus a atteint les 90 millions d'abonnés en un peu plus d'un an, alors qu'il voulait l'atteindre en 15 mois. Est-ce que c'est merci la pandémie? Je sais pas, mais moi je dis merci pour WandaVision qu'on débriefe toutes les semaines avec l'ami Johan dans Super Laser Punch, le podcast que vous devez écouter et auquel vous devez vous abonner tout de suite si vous êtes un fan du Marvel Cinematic Universe. Universe, super laser punch dans toutes les bonnes crèmeries de podcast.
On n'est pas fan de Marvel, la série WandaVision est juste incroyable.
Quand on n'est pas fan de Marvel ?
Ouais, je pense que même au-delà de ça, on n'a pas besoin d'avoir tout vu intégralement pour être interpellé, je pense, par WandaVision.
Ah, c'est cool. Bah écoute, moi j'hésite à la recommander aux gens qui sont pas fans du MCU parce que je me dis c'est plein de petits easter eggs, de petits clins d'œil. Mais toi, t'es pas super fan du MCU et tu l'as apprécié la série ?
Non, moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai tout vu. Mais
Ah d'accord.
Mais je pense que justement ça peut t'intriguer et te donner envie et comme une porte d'entrée en fait sur regarder peut-être un film pour comprendre l'histoire avec le frère, un autre film pour comprendre la rencontre entre Wanda et Vision. Etc.
C'est d'accord, bah écoute très bien. Donc vous pouvez aller regarder WandaVision sur Disney Plus et ensuite aller vous abonner à Super Laser Punch, le podcast pour tout décortiquer et tout comprendre. Un dernier sujet que je voulais évoquer, c'est une pratique assez entre guillemets intéressante de certains policiers de Beverly Hills qui ont commencé à faire un truc. Bon, enfin, on est à l'intersection de tous les éléments de l'internet. Quand des gens viennent filmer ce qu'ils font, certains policiers se sont mis à lancer des morceaux de musique sur leur service de streaming, sur leur téléphone. Dans l'espoir que la musique soit enregistrée dans la vidéo de la personne qui est en train de filmer et que du coup elle se fasse striker automatiquement cette vidéo si elle est publiée sur les réseaux sociaux ensuite.
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Alors, je dis pas que je suis pour, hein, pas du tout. Hein, ça veut pas dire ça. Mais c'est hyper intéressant comment tu détournes le système de licence et de droits sur Internet pour contrer la tentative de certaines personnes. Quoi. C'est des malins.
C'est des malins. Bon, alors évidemment, le truc, c'est que les morceaux que certains ont choisis, ceux qui sont décrits dans l'article, étaient plutôt acceptés et pas strikés par les ayants droit. Donc, c'est pas vraiment efficace. L'article, d'ailleurs, recommande de manière assez humoristique de jouer plutôt des trucs des Beatles parce que eux, ils rigolent pas. Les ayants droit strike tout partout.
C'est clair.
Mais bon, là, la vidéo en question a été à bénéficier du phénomène de loop et donc les plateformes ont dit qu'ils n'allaient évidemment pas la déplatformer, ils allaient mettre une immunité sur cette vidéo spécifiquement, donc ça a été un peu contre-productif, mais c'est effectivement très rigolo, enfin rigolo, inquiétant slash rigolo de voir cette manière dont ils ont essayé de détourner le système.
Ouais. J'avais juste, Patrick, une question.
Vas-y, Brian.
Il y avait quoi sur la vidéo exactement pour que le policier lance une musique et qu'ils ne veulent pas que ça soit plateformé?
Alors, c'était juste un blogueur qui est spécialisé dans ce genre de choses qui allait poser des questions à un policier à propos d'une interaction qu'ils avaient eue par ailleurs. C'était une plainte qu'il venait déposer, en fait. Donc, ce n'est pas cette partie qui est vraiment importante. Ce n'était pas quelque chose de massivement scandaleux. Tu vois, même ça qui est intéressant parce que c'était juste que le flic était énervé, genre irrité par la démarche et que donc c'est même pas qu'ils le font dans des moments où il y a quelque chose de vraiment scandaleux à cacher, c'était juste qu'il semblerait que dans ce commissariat, c'est aux États-Unis, hein, à Beverly Hills, spécifiquement, ils se sont mis à le faire parce que c'était pas le seul celui-là qui l'a fait, il y avait plusieurs personnes qui le faisaient. J'imagine que ça va passer.
Ce contexte-là est super important parce que, voilà, dans d'autres contextes, on aurait du mal à comprendre, mais dans celui-ci, c'est totalement humain et c'est compréhensible. Donc, je pense que c'est important.
Oui, je pense que il y a une espèce de flicage des flics, entre guillemets, où on veut tout enregistrer, etc. Et donc là, dans ce contexte-là, on en rigole entre guillemets et ça nous fait réfléchir sur justement le détournement de ces mécanismes-là. Dans d'autres contextes, ça serait beaucoup plus problématique, évidemment.
Ouais, exactement. Bon, pour préciser, puisque tu posais la question, c'est quelqu'un qui est venu pour avoir l'image d'une caméra sur un flic qui avait fait une, pas une arrestation, mais qui avait donné une contravention dont il pensait qu'elle était injuste, la contravention. Donc c'était okay. assez anecdotique.
Bon enfant.
Voilà. Ou j'irai pas jusque-là, hein, parce que c'est quand même un petit peu, disons que la démarche est quand même un peu plus que limite. Ouais. Quoi. Tu, bon, bref. Voilà donc pour notre rendez-vous tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, j'ai certainement passé un excellent moment. Avant de se quitter, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ?
Mais bien sûr, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitter au pseudo Aizea Design et également tous les mercredis matins sur Twitch, sur Nowtech pour le live Le Mug ou en débrief de l'actu tech.
Merci Marion. Ibrahim, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Moi, on me retrouve sur Twitter et Instagram sous le pseudo Ibiwas, donc I-B-I-W-A-S, ou sinon sur tous les réseaux sociaux avec Molen Geek.
Super, et les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Moi, je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, etc., etc. Je suis NotePatrick partout. Vous pouvez aussi aller sur NotePatrick.com pour retrouver les liens vers bah, Super Laser Punch dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi la newsletter dont je vous parlais tout à l'heure et le Discord dont je vous parlais tout à l'heure où vous pouvez suggérer des choses et discuter avec les auditeurs de l'émission. Il y a une section publique qui est accessible à tout le monde, que vous soyez patriote ou non, vous êtes simple auditeur, vous pouvez parler du dernier épisode de tous les podcasts que je fais avec les autres auditeurs. Et si vous voulez accéder à la partie privée, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech au niveau 2. Ou alors, simplement, si vous voulez soutenir l'émission pour d'autres raisons, vous pouvez soutenir à différents niveaux. Tout ça est sur patreon.com/rdvtech. N'oubliez pas que c'est le moyen essentiel de soutenir l'émission. C'est comme ça qu'elle existe. Donc, si vous appréciez, si vous pensez que c'est un bon moment que vous allez passer quand vous voyez l'émission arriver dans votre app de podcast, eh ben, pensez peut-être à, pourquoi pas, la soutenir financièrement. Si vous l'avez jamais fait, eh ben, pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison de ne pas se poser la question et de ne pas tenter. C'est super simple, ça se fait très vite. Et je vous assure que vous vous sentirez un homme ou une femme renouvelé, réénergisé. Et il y a certaines personnes d'ailleurs qui disent que ça rend plus beau. C'est pas moi qui le dis, ou peut-être que c'est moi qui le dis, mais c'est certaines personnes, ou peut-être une personne qui est peut-être moi ou pas. Plus beau, plus intelligent, pour une somme modique par épisode, je trouve que c'est un deal. Merci en tout cas à tous, je vous fais de grosses bises et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.